La semaine passée, le procureur de la Cour internationale de justice, Karim Khan, a annoncé demander des mandats d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou et Yoav Galan, ainsi que pour trois dirigeants du groupe terroriste du Hamas. On parle des conséquences géopolitiques de cette information avec Daniel Haber. Blaise, il était à votre micro.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Comme tous les lundis, nous décryptons la géopolitique mondiale et plus particulièrement la géopolitique du Proche-Orient depuis le 7 octobre et le début de cette guerre et le massacre commis par le Hamas. Alors, nous aimerions parler aujourd'hui, en tout cas, du fait que le droit international est utilisé par les États non démocratiques face aux pays démocratiques, dont Israël. Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, a prononcé une mise en examen de Benjamin Netanyahou, de Yoav Gallant, ainsi que trois chefs du groupe terroriste du Hamas. C'est une indignation. Quelle est la situation géopolitique autour de cela?
Oui, donc c'est l'indignation, je pense qu'elle est justifiée, mais quelle est la signification donc géopolitique de cette initiative qu'a pris ce procureur, qui est un Britannique d'origine pakistanaise et donc musulmane, et donc on a le droit d'avoir quelques suspicions. Je ferai au fond quatre observations pour mettre en avant la symbolique géopolitique de cette initiative. D'abord que l'annonce en elle-même est un acte de géopolitique. On ne sait pas si les juges de la Cour pénale entérineront cette demande du procureur, mais même si elle le fait pas, l'annonce en elle-même a créé évidemment le bruit dont vous parlez. Elle met surtout en accusation Israël sur des sujets qui en fait ne devraient pas l'être. L'accusation, c'est la fourniture, l'absence de fourniture à la population de Gaza de suffisamment de nourriture et d'aide humanitaire, et puis aussi des bombardements donc indiscriminés. Or, tout le monde sait et tout prouve qu'Israël a déployé des efforts comme aucun autre pays pour limiter les dommages collatéraux. Et tout le monde sait aussi que s'il y a eu des dommages collatéraux, c'est parce que le Hamas utilise la population de Gaza comme bouclier humain. Et tout le monde sait aussi que les difficultés d'approvisionnement de la population gazaoui sont dues au fait que le Hamas a capté l'aide humanitaire pour la distribuer comme bon lui semble. Donc tout ça était assez clair. Et donc cette mise en accusation à la fois du Hamas et d'Israël, mais sur le même plan, et donc de façon tout à fait injuste, et personne ne s'est trompé là-dessus, établit une sorte d'égalité entre le traitement du comportement de terroriste, dont la définition même du terroriste, c'est de violer le droit international. C'est pas un scoop, hein, c'est le terroriste viole sciemment le droit international, et pour le 7 octobre, ils l'ont même filmé. Donc, il savait ce qu'il faisait, et on le met sur un plan presque à égalité avec le comportement d'une armée dont toute l'histoire montre qu'elle a toujours cherché à limiter les dommages collatéraux et qui se comporte en conformité avec le droit de la guerre. Donc voilà, ça c'est ma première observation. La deuxième, c'est que au fond, tous les pays qui sont pas démocratiques, qui sont la grande majorité du monde, utilisent aujourd'hui le droit international pour le détourner et au fond pour affaiblir les démocraties. Et en les affaiblissant, ils affaiblissent aussi le droit international lui-même. Alors c'est vrai de la CPI, mais c'est vrai aussi de ce qui s'est passé peu avant à la Cour de justice internationale, c'est que les deux sont situés à La Haye mais ne font pas le même travail. La CPI s'occupe des individus pour les mettre en examen éventuellement, alors que la Cour de justice internationale s'occupe des pays. Et là, on avait vu l'Afrique du Sud accuser Israël de génocide. Et donc, là aussi, on a vu un État, l'Afrique du Sud, qui est un État non démocratique, quasiment en faillite, mettre en cause un État démocratique. Et au fond, en l'accusant sans preuve, et obligeant finalement l'accusé, Israël, d'apporter les propres preuves. Donc on a un renversement de la justice qui est tout à fait scandaleux. La troisième observation, c'est que ce droit international, c'est un progrès qui a été promu en particulier par les démocraties. C'est éviter que le monde soit dominé par la loi de la jungle, donc c'est un progrès magnifique. Or, en l'utilisant de façon comme on le voit aujourd'hui, contraire même à la logique, on manipule le droit international, on le détourne et on retourne le droit contre les démocraties. C'est-à-dire qu'elles apparaissent comme, au fond, assez naïves. Donc le droit international, au lieu d'être un progrès, devient, parce qu'il est manipulé par les pays non démocratiques, un outil dans ce qu'on appelle la panoplie des armes de la guerre de communication, parce qu'on en parle très souvent ici à Conversation, tous les pays non démocratiques mènent une guerre de communication contre la démocratie pour l'affaiblir. Dernière donc observation, hélas, certaines démocraties acceptent cette perversion du droit international, et c'est pour ça qu'elle a un certain succès. Heureusement, les Américains ont rejeté cette mise en accusation d'Israël à la Cour pénale, mais on a vu les Européens, au contraire, encourager à valider, au fond, ce détournement du droit. Et donc, c'est parce que certaines démocraties sont oublieuses que cette manipulation du droit a une certaine efficacité.
Daniel, on a l'impression que de plus en plus dans la vox populi, l'État hébreu est mis de côté. Que doit faire Israël par rapport à cette situation?
Il faut surtout quand même démontrer, parce que c'est pas très difficile, combien les démocraties ont tort de valider cette manipulation du droit international par les États non démocratiques. Il faut jamais oublier que la majorité des pays du monde, hein, 140, 150 sur 193 pays, ne sont pas des démocraties. Et elles ont réussi, en particulier à l'ONU, à contourner le Conseil de sécurité et à faire de l'Assemblée générale, où chaque pays a une voix, la caisse de résonance, d'une part, de leur ressentiment anti-occidental et de leur volonté de se venger d'un Occident qui, soi-disant, dans le passé, les aurait humiliés. Ils ont fait aussi du secrétaire général de l'ONU leur porte-parole. Donc ça, c'est la première chose qu'Israël doit démontrer. Il faut aussi qu'Israël démontre, c'est deuxièmement, que 40% des pays du Sud global sont des pays musulmans qui développent une haine anti-juive issue du Coran et qui aujourd'hui se portent sur Israël. Et enfin, dernièrement, il faut montrer que derrière ce Sud global se cachent trois grandes puissances, la Russie, l'Iran, la Chine, qui sont des contestataires de démocratie et qui utilisent se cache derrière cette majorité qu'on appelle majorité automatique pour faire la guerre à la démocratie. Donc voilà ce que Israël doit faire, démontrer tout ça.
Pour conclure, Daniel, quelle est votre analyse de ce que cela dit de notre monde actuel?
C'est assez simple. Pour les démocraties, ne pas soutenir Israël, c'est faire le jeu des ennemis de la démocratie. C'est donc de participer à leur propre défaite. C'est assez visible pour nous. Ce qui est incroyable, c'est que certains, malheureusement en Europe, ne le voient pas, que la victoire d'Israël, c'est la victoire de la démocratie, et que la défaite d'Israël, c'est la défaite des démocraties. Donc la guerre que nous mènent les non-démocraties, les pays autoritaires, est avant tout une guerre de communication. On continuera à en reparler. Et donc le droit international est utilisé comme un outil. Et que pour les démocraties, ne pas le voir, c'est un aveuglement qui se retournera contre les démocraties.
Daniel Hamer, merci d'avoir été avec nous en ce lundi matin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
À la semaine prochaine.